première chose que j'ai faite en arrivant, c'est de clouer une planche de pin pour poser mes livres. Quand vous allez vivre 6 mois dans une cabane, soit il faut avoir une vie intérieure importante, soit une très bonne bibliothèque.
Et vous avez les deux ?
Je ne sais pas, mais j'avais une très bonne bibliothèque.
Vous écoutez toujours Transistor en ce soir de Saint-Valentin. Il est 21h18, la nuit est déjà un peu entamée, alors restez éveillés car c'est votre émission des yeux ou des oreilles qui va commencer. Nous vous proposons de terminer ce grand direct par un peu de lecture et de musique en compagnie de Phileas, Marie et Martin.
Mes excuses, madame. Mais il me semble, si je ne me trompe pas, que je vous ai déjà rencontré quelque part.
À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part.
Ne vous aurais-je pas aperçu, madame, à Manchester, par hasard ?
C'est très possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais pas dire si je vous y ai aperçu, ou non.
Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester. Madame.
Comme c'est curieux.
Comme c'est curieux. Seulement moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ.
Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ.
J'ai pris le train d'une demi après 8 le matin qui arrive à Londres à 5:15. Madame.
Comme c'est curieux. Comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. J'ai pris le même train, monsieur, moi aussi.
Mon Dieu, comme c'est curieux. Peut-être bien alors, madame, que je vous ai vu dans le train.
C'est bien possible. Ce n'est pas exclu. C'est plausible et après tout, pourquoi pas. Mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur.
Je voyageais en 2e classe, madame. Il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyage quand même en 2e classe.
Comme c'est bizarre, que c'est curieux. Et quelle coïncidence, moi aussi, monsieur, je voyageais en 2e classe.
Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être rencontrés en 2e classe, chère madame.
La chose est bien possible, et ce n'est pas du tout exclu. Mais je ne m'en souviens pas très bien, cher monsieur.
Ma place était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, madame.
Mais comme c'est curieux, ma place aussi était dans le wagon numéro 8, 6e compartiment, cher monsieur.
Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence bizarre. Peut-être nous sommes-nous rencontrés dans le 6e compartiment, chère madame.
C'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur.
À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Mais il est possible que nous nous soyons aperçus là. Et si j'y pense bien, la chose me semble même très possible.
Oh vraiment, bien sûr, vraiment monsieur.
Comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame.
Oh mon Dieu, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. J'avais la place numéro 6 près de la fenêtre, en face de vous, cher monsieur.
Oh mon Dieu, comme c'est curieux et quelle coïncidence. Nous étions donc vis-à-vis, chère madame. C'est là que nous avons dû nous voir.
Comme c'est curieux. C'est possible, mais je ne m'en souviens pas, monsieur.
À vrai dire, chère madame, moi non plus, je ne m'en souviens pas. Cependant, il est très possible que nous nous soyons vus à cette occasion.
C'est vrai, mais je n'en suis pas sûre du tout, monsieur.
Ce n'était pas vous, chère madame, la dame qui m'avait parlé de... qui m'avait prié de mettre sa valise dans le filet et qui ensuite m'a remercié et m'a permis de fumer.
Mais si, ça devait être moi, monsieur. Comme c'est curieux. Comme c'est curieux et quelle coïncidence.
Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, quelle coïncidence. Eh bien alors, nous nous sommes peut-être connus à ce moment-là, madame.
Comme c'est curieux et quelle coïncidence. C'est bien possible, cher monsieur. Cependant, je ne crois pas m'en souvenir.
Moi non plus, madame. Depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame.
Comme c'est curieux, comme c'est bizarre. Moi aussi. Depuis mon arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur.
Comme c'est curieux. Nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame.
Comme c'est curieux, comme c'est bizarre, c'est bien possible, après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur.
Je demeure au numéro 19, chère madame.
Comme c'est curieux. Moi aussi, j'habite au numéro 19, cher monsieur.
Mais alors, nous nous sommes peut-être vus dans cette maison, chère madame.
C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur.
Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame.
Comme c'est curieux. Mon Dieu, comme c'est bizarre. Et quelle coïncidence. Moi aussi, j'habite au 5e étage, dans l'appartement numéro 8, cher monsieur.
Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est couvert d'un édredon vert. Cette chambre, avec ce lit et son édredon vert, se trouve au fond du corridor entre les water et la bibliothèque, chère madame.
Quelle coïncidence ! Ah mon Dieu, quelle coïncidence ! Ma chambre à coucher a, elle aussi, un lit avec un édredon vert et se trouve au fond du corridor entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque.
Comme c'est bizarre, curieux, étrange ! Alors madame, nous habitons dans la même chambre et dormons dans le même lit, chère madame. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés.
Comme c'est curieux et quelle coïncidence ! C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur.
J'ai une petite fille. Ma petite fille, elle habite avec moi, chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie, elle s'appelle Alice, chère madame.
Quelle bizarre coïncidence. Moi aussi j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, un œil blanc et un œil rouge. Et elle est très jolie. Elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur.
Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Et bizarre. C'est peut-être la même, chère madame.
Comme c'est curieux. C'est bien possible, cher monsieur.
Alors, chère madame, je crois qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée.
Donald ? C'est toi, darling ?
Que fait-on aimer ? Mais toujours la même chose, hurla-t-il en lui-même. On s'aime ! À Genève, elle ne lui aurait pas posé cette terrible question. À Genève, il n'y avait qu'à être ensemble et c'était le bonheur. Tandis que maintenant, elle voulait tout le temps savoir quelle pitance il allait lui offrir. La prendre encore ? Aucune envie. Elle non plus, d'ailleurs. Lui dire une tendresse ? Elle n'en sauterait pas au plafond. Essayez tout de même. « Je t'aime », lui dit-il une fois de plus en ce jour, jour d'amour, comme tous leurs jours. Pour le remercier, elle lui prit la main, y déposa un baiser curieusement petit mais bruyant. Les mots, les mêmes mots qui, au Ritz, l'avaient étourdi de bonheur. Les mêmes mots déclenchaient maintenant un baiser nain à son intestinal. Dehors, universel, une inlassable pluie disait leur malheur. Enfermés dans la souricière d'amour, condamnés aux travaux d'amour à perpétuité, ils étaient couchés l'un près de l'autre, beaux, tendres, aimants et sans but. Sans but. Que faire pour ranimer cette torpeur ? Il la serra contre lui pour ranimer la torpeur. Alors, elle se pelotonna contre lui. Que faire maintenant ? Ils avaient depuis longtemps dévidé leur cocon de souvenirs, de pensées, de goûts communs. Tout leur cocon sensuel aussi. On allait vite au bout de la chair. De nouveau, elle se blottit contre l'homme de sa vie et il eut mal de pitié. Il n'avait pas répondu à sa question et la pauvre n'osait pas la répéter. Ah, ce qu'il faudrait maintenant, c'était 2 heures d'adultère au Ritz. Elle, venue en cachette le voir à 4 heures, venue avec battements de cœur et de paupières, et sachant avec douleur et joie de vivre qu'elle devait absolument le quitter à 6 heures. Ah, elle ne songerait pas alors à lui demander ce qu'on allait faire. Et qu'est-ce donc, continua-t-elle, jusqu'à quand persévérerez-vous? Que puis-je faire à ces soupçons, sans cesse renaissants, sans cesse altérés? Il faut, dites-vous, que je me justifie. De quoi? De partir, d'aimer, de mourir, de désespérer? Et si j'affecte une gaieté forcée, cette gaieté même vous offense. Je vous sacrifie tout pour partir. Et vous n'aurez pas fait une lieue que vous regarderez en arrière. Partout, toujours, quoi que je fasse, l'injure, la colère. Ah, cher enfant, si vous saviez quel froid mortel, quelle souffrance de voir ainsi la plus simple parole du cœur, accueillie par le doute et le sarcasme. Vous priverez par là du seul bonheur qu'il y ait au monde, aimé avec abandon. Vous tuerez dans le cœur de ceux qui vous aiment tout sentiment délicat et élevé. Vous en viendrez à ne plus croire qu'à ce qu'il y a de plus grossier. Il ne vous restera de l'amour que ce qui est visible et se touche du doigt. Vous êtes jeune, Octave, et vous avez encore une longue vie à parcourir. Vous aurez d'autres maîtresses. Oui, comme vous dites, l'orgueil est peu de choses, et ce n'est pas lui qui me consolera. Mais Dieu veuille qu'une larme de vous me paie un jour de celle que vous vous faites répandre en ce moment. Elle était à bout de nerfs, envahie par une sorte de rage dont elle ne savait si elle trahissait le désespoir, la colère ou la honte. Elle avait l'impression d'avoir fait les mauvais choix, depuis longtemps, depuis toujours peut-être. Elle avait eu tort de suivre cet homme, de faire une exception pour lui, à la méfiance qu'il avait toujours protégée de l'humiliation et de la souffrance. Et elle était là, blessée, trahie, naufragée. Elle hurla.
C'était bientôt la fin du lycée. Et nous ne savions pas quoi faire de nos vies, sinon nous cramponner les uns aux autres. Et si nous nous serrions les coudes, à vrai dire, c'était autant pour nous soutenir mutuellement que pour ne laisser à aucun d'entre nous une chance de prendre son envol. À la maison, mon père et ma mère alternaient entre mutisme et hostilité déclarée. Lorsqu'ils se parlaient, c'était pour se faire souffrir. Et quand ils gardaient le silence, c'était pour mettre au point de nouvelles armes. Ils arrivaient parfois à se montrer courtois, mais comme nous savions que ça ne durerait pas, même ces répits étaient chargés d'angoisse. Je me sentais un peu coupable, d'autant plus qu'après avoir menti à mes amis et à ma mère, je me mis à me mentir à moi-même, me racontant que j'allais juste faire un tour, sans savoir vraiment où. Pourtant, je le savais pertinemment, et alors que je prenais clairement la direction d'Abderdin Lane, je recherchais encore à me convaincre que ce n'était pas là que je me rendais. Dans mon esprit, je me voyais poursuivre mon chemin sans même m'arrêter. Mais arrivé au coin de Northcote Avenue et d'Aberdeen Lane, je m'immobilisais. Je m'étais leurré. Pour arriver jusque-là, et maintenant que j'y étais, je n'avais aucune idée de la suite. L'apercevoir, peut-être ? Entendre de nouveau son nom, Rachel ? Lentement, comme si je cherchais une bonne raison de continuer, je m'engageais dans la rue. Les cloches de l'église sonnèrent. Je voulais simplement passer devant elle. Quand je constatais que sa voiture n'était pas là, je fus à la fois déçu et soulagé. Je m'adossai à un sycomore. La maison n'avait pas changé. Rien n'indiquait que quelqu'un y avait emménagé, même rideau, même store. J'en vins à me demander si je n'avais pas tout imaginé, la fille, les boucles d'oreilles, l'homme aux cheveux gris, criant son nom, Rachel ! Hé, vous ! Elle m'appelait. Je m'écartais de l'arbre, comme s'il était brûlant. Je reconnus sa voix sans même regarder dans sa direction. Je lui tournai le dos, prête à m'éloigner. « Et vous, vous là-bas » Je jetai un coup d'œil. Elle était à une fenêtre du premier étage et elle pointait un doigt vers moi. « Restez où vous êtes » lança-t-elle d'une voix habituée à ce qu'on lui obéisse. Alors je restai planté là. La porte d'entrée s'ouvrit, se referma, puis elle franchit la moustiquaire du perron en courant, pieds nus, et la claqua derrière elle. Elle portait un jean délavé et une chemise d'homme en flanelle beaucoup trop grande pour elle. Une manche était relevée jusqu'au-dessus de son coude. L'autre recouvrait son poignet. « Vous avez attendu !» Elle sourit. Ses yeux verts étaient gonflés comme si elle venait de pleurer. « Eh bien, vous m'avez demandé de... » J'indiquai la fenêtre où je l'avais aperçue. « Pourquoi me fixiez-vous ma maison comme ça ?»«
Comme quoi ?»«
Comme vous le faisiez, là, comme ça !» Et elle s'adossa aussi comme mort, en m'imitant. Je fus vexé par la perfection de son interprétation. Quand on a 18 ans... Rien ne semble plus capital que d'être inimitable. Je me levai. La chaise émit un craquement. J'abandonnai les photos sur mon siège et m'en allai. Le vent soufflait toujours. Cette fois, je me laissai entraîner dans son sillage, portant, comme mon père, le souvenir d'un certain sourire, d'une nuit d'été. Je m'agrippai à mon chagrin, et ce faisant, je ne voulais pas lâcher Rachel. J'aurais sans doute pu me libérer d'elle, en laissant ma douleur s'envoler. Mais par cette nuit de tempête glaciale, nulle liberté ne m'attirait. Je songeais malgré tout à la proposition muette de Rachel. Je voyais un nouveau destin prendre forme. Je pleurerais à jamais mon premier amour, qui aurait pu s'épanouir, mais que j'avais fini par perdre définitivement. Je me voyais y consacrer le reste de ma vie. Ce serait une sorte d'occupation, une émotion sécurisante, une orbite fixe. La liberté, aucun intérêt. C'était une feuille emportée par le vent, alors que moi, je voulais être relié à quelque chose, à quelqu'un. L'idée même d'une vie entière de liberté m'angoissait terriblement. La proposition de Rachel m'apparaissait comme un phare dans la nuit. Elle me donnait un but, me permettait de penser. Un jour, peut-être. La liberté, c'était être libéré de la souffrance, de l'espoir, être déraciné, aller à la dérive. Que pouvait bien faire un homme libre ? À quoi aspirait-il ? Qui avait-il à espérer ? Rien, absolument rien. Quand je songeais à la liberté, tout ce que je voyais, c'était le néant. Et j'avais besoin de croire qu'un jour, peut-être. J'avais besoin d'un rôle et d'un destin. Sur le chemin du retour, je m'imaginais devenir une légende à East Chicago. Daniel, l'homme au cœur brisé. Tout le monde serait au courant de mon histoire et il saurait que j'espérais toujours qu'elle revienne. Son père est mort, sa fiancée l'a quitté. Tout le monde le comprendrait. Tout le monde comprendrait pourquoi j'avais aussi mal tourné. Les cierges brûlaient toujours sur la table de la cuisine quand j'arrivais chez moi. Mon absence était probablement passée inaperçue, comme mon retour. Je m'étendis sur le canapé du salon. Il n'y avait plus de couverture. Frissonnant, je regardais les flammes trembloter. Une pour les vivants, l'autre pour les morts. Je finis par m'endormir. Mon père mourut le lendemain.
Je veux finir à l'ombre. Je veux finir à l'ombre.
Il n'y a pas de prison plus belle que tes bras. Tu n'as pas de raison pour m'enfermer comme ça. Mais j'en trouverai bien une, j'en trouverai des tas. Tu peux en être sûr, allez arrête-moi. Je jouerai d'infortune pour te laisser gagner, pour te laisser m'avoir, m'arrêter, me noter. Je jouerai l'imprudent, je jouerai le bandit, pour finir innocent, prisonnier dans ton lit.
Je veux finir à l'ombre, je veux finir à l'ombre de tes pas. Je veux finir à l'ombre, je veux finir à l'ombre sous tes bras.
Faire parler,
je te veux, j'avoue,
tu as les moyens de me faire chanter. S'il faut que la nuit dure un peu plus qu'encore, je céderai à la torture des charmes de ton corps.
Je veux finir à l'ombre, je veux finir à l'ombre de tes pas. Je veux finir à l'ombre, je veux finir à l'ombre sous tes draps.
N'importe quoi, et tu me ris au nez et moi je reste quoi, comme un enfant de cœur qui près de cour bafouille. Dans l'eau de tes regards trouble et glace mon sang, au pied des mots brûlants ma pauvre voix se rouille, renseignant ses plus tendres traits en son carquois, de peur de faire naître un sourire narquois sur tes lèvres dorées que mon baiser ne mouille. Mais l'eau de tes regards trouble et glace mon sang. Je blâme le crétin morose et languissant que je suis devenu sans bien m'en rendre compte, le front glacé, la langue blanche et l'œil absent. Comment pourrais-tu voir en moi plus qu'un passant? C'est ce qu'en gémissant le soir je me raconte. Comme je suis un étranger dans notre vie. Je ne parle qu'à toi avec d'étranges mots, parce que tu seras peut-être ma patrie, mon printemps. Ni de paille de pluie aux rameaux, ma ruche d'eau qui tremble à la pointe du jour, ma naissante douceur dans la nuit. Mais c'est l'heure que les corps heureux s'enfouissent dans leur amour avec des cris de joie, et une fille pleure dans la cour froide. Et toi ? Tu n'es pas dans la ville, tu ne marches pas à la rencontre des nuits,
C'est l'heure où, seule avec ses paroles faciles, je me souviens d'une bouche réelle. Ô fruit mûr, source des chemins dorés, jardin de lierre, je ne parle qu'à toi, mon absente, ma terre. On s'enflamme, mais dans nos âmes il n'y a plus de flamme, et c'est infâme, l'amour se compte en grammes, grande âme de ces femmes qu'il voit comme un sésame. Plus de Cupidon, c'est bidon, et Cupide, on achète des roses et on ose tout. Je t'aime et je sème des gemmes, sans rancœur et sans peur dans ton cœur et ailleurs. Non, ce n'est pas mièvre, de la fièvre quand je touche tes lèvres, et ça m'énerve ce qui enterre l'amour. Nous sommes des pauvres airs à l'air de l'éphémère, mais on peut prendre un bol d'air et piocher dans les hières de quoi faire. Et prendre la mer, la mammaire, vers des horizons sans nom, en toute saison et en toute hâte, sur l'océan miroite, dans la ouate, un ailleurs, avec une âme sœur plein de bonheur et d'une vibrante ferveur et d'une pure ardeur. L'amour est mort, mais on s'en sort plus fort, on fait des mots de ces mots et de l'or de ce sort. »